Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Franjo, podcast épisode très spécial, parce qu'on a ni plus ni moins que Dieudonné Mbala, c'est ça?
Tout à fait.
Ça va?
Ouais, impeccable. Bon. Belle présentation.
Alors je vais quand même, petite mise en contexte, hein, parce que c'est important de le dire. J'avais fait un podcast avec Elie Semoun il y a quelques mois. On a publié, on a eu un message de ton équipe pour un droit de réponse, hein, parce que il semblerait, j'y connais pas grand chose, que légalement on soit quand même un peu obligé d'accorder une réponse.
Tout à fait, c'est la loi.
C'est la loi. Exactement.
Tu peux pas faire autrement.
Je tiens à être quand même transparent. C'est quand même super intéressant de t'avoir, évidemment. Et je dis bien intéressant parce que je sais pas encore si je suis heureux de t'avoir. Voilà. J'aimerais bien le préciser.
Non, ça devrait bien se passer.
ça devrait bien se passer. Donc merci quand même d'être là. On a un petit rituel avec Ilias. Ilias, merci d'être là. Tu es revenu de ton marathon à Dubaï.
Ouais, ça y est. Voilà. Je suis pas revenu pour le beau podcast, je pense.
J'étais à Dubaï,
ouais.
Il y a combien de temps?
En février, donc avant tout ça.
Juste avant.
Juste avant, ouais. J'allais plus vite que les roquettes pendant le marathon.
Et donc, on a un petit rituel avec Ilias qui, on s'amuse à présenter l'invité grâce au réseau, notamment ChatGPT, qui fait un travail parfois sublime, parfois un peu bancal.
Ouais. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que ChatGPT dit de toi? Je sais pas si toi t'avais déjà essayé, par exemple, de savoir ce que
disait
toi.
En général, il refuse tout un tas quand je lui parle. Je pense qu'il a pas été programmé par des amis, mais bon, allons-y.
Ouais, t'as complètement raison. Le premier truc qu'il m'a dit, c'est je dois te dire une chose importante avant de te préparer le brief. Dieudonné Mbala est une figure très controversée, avec de nombreuses condamnations judiciaires pour antisémitisme et incitation à la haine raciale. Ouais. C'est les premières choses qu'il dit. Ensuite, donc du coup, là, il commence vraiment donc ta biographie. Il me dit, donc, né le 11 février 1966 à Fontenay-aux-Roses, d'une mère bretonne et d'un père camerounais, connu dans les années 90 comme l'un des humoristes les plus populaires de France, au sein du duo antiraciste Elie et Dieudonné avec Elie Semoun de 91 à 97. Après leur séparation, il se lance dans une carrière solo et en politique, candidat aux législatives de 1997 à Dreux contre le Front National. À partir des années 2000, il opère un revirement idéologique radical, les spectacles deviennent de plus en plus controversés, avec des prises de position antisionistes puis antisémites. C'est ChatGPT. Il est l'inventeur...
C'est pas moi.
Il est l'inventeur de la quenelle, geste qui a déclenché une polémique mondiale autour d'un geste présumé antisémite. Multiples condamnations judiciaires, lui il en cite 15, je crois qu'il y en a un peu plus, mais en gros voilà, donc toujours autour des mêmes thèmes, que ce soit en France, Suisse, Belge et Canada. Expulsé du théâtre de la Main-d'Œuvre à Paris en 2017, il se produit désormais dans des lieux secrets ou des bus itinérants. En 2025-2026, ces spectacles continuent d'être interdits par arrêtés préfectoraux dans de nombreux départements. Et il s'arrête là-dessus.
Ah, il s'arrête quand même. Je m'attendais à mangeur d'hommes, je m'attendais à... Écoute, de toute façon, être traité de raciste par ChatGPT ou par des blancs américains en général, ça me fait vraiment marrer. Mec, ils sont en train de buter, ils ont massacré les Indiens d'Amérique, ils ont déporté les Noirs comme moi, et maintenant il y a des racistes comme moi qui font des blagues. Non, mais c'est extraordinaire. C'est le jeu, mais je vois pas comment je pourrais être raciste en ayant effectivement, tu l'as dit, une mère blanche et un père noir. Déjà, c'est très compliqué. Après, l'antisionisme, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe par rapport au peuple palestinien. Donc, en tant qu'anticolonialiste, naturellement, j'ai été amené à donner des idées. C'est un sujet très compliqué. Hein, on va peut-être pas le régler ce soir, enfin tout de suite en 5 minutes. Donc c'est compliqué. Voilà. Alors peut-être que j'ai été à un moment donné. Peut-être porté par un courant qui aujourd'hui d'ailleurs on voit bien qu'il s'affronte. Je pense que le rôle de l'artiste, c'est plutôt d'essayer de trouver un chemin d'apaisement dans tout et c'est pas simple, surtout sur ce sujet-là. Alors moi, mon idée, c'était de faire un spectacle comique avec un humoriste iranien que je connais bien et un humoriste israélien, et voilà, le projet est toujours
un projet là.
Disons que ça va devenir de plus en plus compliqué et en même temps de plus en plus urgent de faire un truc dans ce genre-là. L'idée, c'est de faire jouer de faire jouer à l'Iranien le rôle de l'Israélien et de l'Israélien le rôle de l'Iranien.
D'accord.
En étant le plus caricatural possible et on est sur voilà et en faisant rire par l'outrance de la caricature.
Je crois que t'es toujours dans des sujets un peu légers, ça fait plaisir.
Non, mais là mais c'est en fait c'est là où il y a le plus de lourdeur ou de plus de tabou qu'il faut essayer quand t'es un humoriste qui essaye de faire ça convenablement d'aller chercher le rire sur ce fumier qui est celui de la guerre, du conflit et de tout ça. Donc voilà mon idée à moi. Bon,
mais du coup, moi, en regardant tout ce que t'as fait, parce que je t'avoue, je sais depuis un moment que tu viens, j'ai refait tous tes spectacles. À quel moment tu t'es dit justement, je vais rire de choses graves, à tel point finalement tu te mets en danger et du coup tu mets parfois ta carrière entre parenthèses.
Ma carrière, je suis très fier de ma carrière. Moi, je suis peintre maintenant. Et j'invite les gens à aller regarder mes peintures sur artadministratif.com puisque je détourne des arrêtés préfectoraux.
Oui, on en parlera tout à l'heure, mais oui.
Mais pour dire que non, ma carrière, non seulement j'en suis fier, mais elle me ressemble. Après, je ne me voyais pas du tout avoir une carrière. J'ai fait du cinéma. J'ai trouvé l'univers complètement détestable.
Le film de Chabat.
Là, c'était un copain. Alors, dès que tu t'amuses et tu déconnes avec des amis, c'est beaucoup plus sympa, quoi, évidemment. Chabat, je l'aime beaucoup, mais je sais pas s'il s'est amusé dans sa vie à faire de la télé. Après, il a fait ce film super, incroyable. Je crois qu'il s'est vraiment marré. Valérie Le Mercier aussi, elle riait bien. Mais le problème, c'est que tu fais des compromis avec ceux qui financent ce divertissement et que à la fin moi j'ai commencé, on a le même âge que Pierre Palmade, tu vois.
Pas la même carrière.
Alors je sais pas s'il a réussi sa carrière, je sais pas où il en est dans sa carrière, mais moi ce que je veux dire,
toi t'es venu en voiture déjà, je pense que lui il peut plus trop se déplacer en voiture. Là.
Enfin moi j'ai un bracelet électronique, lui il n'en a plus. Moi j'ai tué personne, mais bon encore une fois j'ai fait des blagues qui sont pas passées et ce qui est certain c'est que c'est un métier qui broie, c'est un univers qui Palmade en est l'exemple le plus flagrant, quoi. C'est un petit mec de province de Bordeaux qui débarque et qui se laisse happer par un système complètement fou. Donc une carrière, je sais pas trop ce que c'est, si ce n'est la mienne. Et la mienne, je suis assez content. Je fais des peintures qui s'arrachent maintenant.
Tu regrettes pas, quoi.
Je suis à la retraite.
En fait, moi, ma question, c'est que parfois, moi, en tant qu'humoriste à une échelle évidemment différente, parfois, je me pose la question entre dénoncer des choses qui, pour moi, ça me tient à cœur, mais en même temps, je me dis, ça va peut-être pas plaire à des gens. Et il y a un moment, il y a un choix où tu te dis, bon, est-ce que je vais là-dedans et du coup, j'ai des problèmes, entre guillemets, et toi, t'en as eu quand même beaucoup. Oui. Ou alors, est-ce que je reste... entre guillemets mainstream, mais je continue à vivre de ça. Tu vois, il y a eu un choix à un moment. Est-ce que t'as des regrets ou t'es complètement ok avec comment ça s'est déroulé?
Disons que j'ai commis des erreurs, j'ai fait des fautes, comme tout le monde. Après, je les assume parfaitement. C'est-à-dire que je suis très content de là où j'en suis aujourd'hui parce que je te dis, je suis chez moi, alors, par la force des choses, avec un bracelet électronique, incarcéré à domicile, mais je fais des peintures. Et je peins donc sur ces arrêtés, et c'est devenu une passion. Et j'ai fait 4 expos à Paris, et ça s'arrache. C'est-à-dire que les collectionneurs, je gagne plus d'argent en faisant de la peinture qu'en remplissant des zéniths, tu vois. Et donc, je me dis, bon, au-delà de l'argent, hein, c'est extraordinaire d'en arriver là, parce que si t'avais pas mon parcours, t'aurais pas eu d'arrêté. Si t'avais pas eu mon parcours, t'aurais pas eu le succès que j'ai dans la peinture. Parce que chaque toile, c'est une page d'histoire, numérotée, tamponnée. Moi, mes œuvres sont signées par l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc c'est absolument unique. Et ça, je le dois à quoi? Je le dois à mon histoire. Je le dois à rien. Enfin, je suis à la fois spectateur et acteur de ça. Tu fais rire les gens, c'est le plus beau métier du monde. Ça, je crois. Bon, après, je mettrai la peinture. Après, franchement, et tout au fond de la comédie, je mets les carrières politiques, voilà, les plus mauvais journalistes, voilà, qui sont les plus mauvais, quoi.
Ouais, C'est vrai que d'ailleurs c'est marrant parce qu'on t'a confondu avec un homme politique. Ça veut bien dire que la frontière est mince entre un homme politique et un humoriste parfois.
Ouais.
Et je parle de ça parce que tu sais très bien pourquoi. Ouais. Parce que là dernièrement il y a eu les fichiers Epstein qui sont sortis et on a voulu t'arrêter en tant qu'homme politique. En tout cas dans les mails qui sont avérés réels hein, parce que ouais. Plusieurs vérifications.
Peut-être pour donner un peu de contexte.
Ouais, je veux bien.
Donc il y a un mail du 20 décembre 2013. De Ariane de Rothschild, une banquière française, qui exprime son indignation à Epstein après avoir vu une vidéo de toi où apparemment tu aurais des propos sur les juifs et l'argent, et elle qualifie tes propos d'outrageants et elle s'inquiète du nombre de vues. Et donc, 20 décembre 2013, ça coïncide à peu près avec ce qui s'est passé avec l'affaire, donc Manuel Valls, et tout ce qui s'est passé en France et tout ça. Donc, beaucoup de gens se posent des questions.
Bah, là, il y a une vraie question, c'est est-ce qu'il y a une corrélation ou pas ? Enfin, moi, j'ai envie de croire à un faisceau d'indices et de me dire il y a forcément un lien, mais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire non, il n'y a pas de lien, j'imagine.
T'as les gens, c'est ça, là. Moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Ce que j'ai vécu, moi, c'est-à-dire la chronologie des faits ne laisse pas la place au doute. Elle fait ce mail en décembre 2013. En janvier 2014, j'ai une vague d'arrêtés d'interdiction. Je passe devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, qui va valider l'interdiction avec une ordonnance qui fait date, ça s'appelle l'ordonnance Dieudonné, du 9, elle porte mon nom, pour ça que je m'en souviens, elle est étudiée dans les universités de droit.
Tu l'as récupéré pour faire un tableau avec ?
Bien sûr, mais j'ai surtout récupéré le mail. C'est pour ça qu'il y a vraiment une dynamique derrière politique, en fait, derrière ce groupe, qui ressemble quand même étrangement à un groupe mafieux, avec Epstein, qui était également soupçonné d'être agent du Mossad. Et donc, me retrouver, moi, l'histrion, au milieu de cette affaire-là, je me suis dit, bah, déjà, j'en suis sorti vivant.
Oui,
ce qui est déjà...
C'est quand même une bonne chose.
Je sens les performances de ces équipes-là. Et je suis là pour dire, au contraire, aujourd'hui, non, je crois que s'attaquer aux clowns, c'est pas en pétant le baromètre qu'on va changer la température et le climat, quoi, et la pression atmosphérique. Mmh. Oui, la pression, elle est très forte. Encore une fois, j'ai eu un parcours qui est, pour me retrouver là-dedans, face à face, avec des
puissances mondiales un peu fortes, parce que quand tu vois Epstein, le réseau qu'il avait, moi quand j'ai vu que t'étais dedans, ouais. Je me suis dit, ah ouais, il avait vraiment percé à l'époque, quoi.
Ah ben ouais, c'est ça, ben, t'as compris. Ah, c'est-à-dire que je pensais pas être arrivé à ce niveau de dangerosité pour ces gens en col blanc. J'étais, en plus quand je l'ai appris, j'étais à l'éléphant bleu. J'étais en train de refaire mes jantes. Et il me restait 30 secondes de mousse, et là, on me dit, non, mais Dieudonné, arrête avec tes conneries, t'es dans l'affaire Epstein. Je fais, merde! Tu te rends compte? Où j'en suis arrivé? Et donc, j'ai laissé les 30 secondes de mousse, et je suis remonté dans ma bagnole, et je me suis dit, putain, la vie est quand même étonnante.
Ouais, c'est... Enfin, je t'avoue que quand on a commencé à parler des fichiers Epstein, je m'attendais pas à ce que tu sois dedans.
Ils les étaient motivés, et donc Ariane, donc avec les milliards, c'est une personne qui pèse plusieurs milliards d'euros, et son groupe, ils ont demandé à Jeffrey un rendez-vous pour parler, aborder mon cas. Voilà. Et moi, ce que je constate, c'est que Manuel Valls, la marionnette d'Evry, le bouffon catalan, est monté et gesticulé bien comme il faut à la tribune. J'ai vu les liens entre Valls et alors pas Epstein pour l'instant, on attend parce qu'il y a une perquise chez Ariane de Rothschild, mais en tout cas avec Ariane. La femme d'Ariane était très copine avec la femme de Valls était très copine avec Ariane de Rothschild. Il y a des photos, on les voit. Et donc, en fait, tout ça est un petit milieu que j'ai eu sur le dos pendant près de 10 ans. Avec des perquisitions. Ils m'ont tout fait, hein. J'ai eu le droit à l'armée, hein, puisque la gendarmerie, les hélicoptères, j'ai...
En fait, ça, ce truc-là alimente, et t'en parles souvent dans tes spectacles d'ailleurs, l'existence d'un état profond, tu vois. On traite souvent ça comme une histoire de complotisme, mais là, on peut plus trop nier que y a quelque chose au-delà des institutions judiciaires qui ont un pouvoir.
Tu joues pas au Monopoly contre la banque, tu vois, ou au poker contre une banque. Ils gagnent à tous les coups.
Et d'ailleurs, j'ai vu un passage de toi qui, on l'a vu d'ailleurs ensemble, où tu parles d'un réseau pédocriminel qui t'aura approché. C'est eux que tu vises? C'est réel, ce que, ce
dont alors, tu parles? Alors, moi, non. Moi, j'ai été témoin. Alors, en fait, il y a des enfants d'un haut magistrat qui étaient venus voir un de mes spectacles. Ça a donné lieu, effectivement, à un sketch. Et leur père était président de cour d'appel, donc la plus haute fonction, on dirait, dans le système. Et il était en plein dedans et il s'est confessé auprès de ses enfants et il est mort très peu de temps après et voilà, et ses enfants sont venus voir en disant voilà, mon père a été assassiné parce qu'il faisait partie de ces réseaux pédocriminels et qu'en fait dans la magistrature notamment c'est dans le monde politique, n'en parlons pas quoi. Et donc c'est là que j'ai découvert ce sujet-là, mais d'autres l'ont traité avec bien plus de travail et de talent, comme Carte Zéro ou autre quoi. Mmh. Qui en ont fait une carrière, quoi. Moi, j'ai simplement effleuré le sujet à travers un témoignage.
Voilà. Ouais. Non, mais c'est ressorti là parce que les gens.
Ben c'est en fait cet extrait-là qui a été cité notamment par Ariane de Rothschild aussi pour dire que j'étais dangereux.
Et oui.
Et ouais. Donc je comprenais pas. Alors il est clair le lien entre Ariane de Rothschild, ces réseaux criminels, ils vont être établis puisqu'il y a eu une perquisition, je crois, il y a deux jours, donc chez Ariane. On n'entend pas trop parler Ariane. Hein. Pour l'instant, c'est un, deux, trois soleils. Hein. Ariane.
Pour l'instant, ça bouge pas trop.
Ariane, tu bouges plus.
ouais, c'est vrai que là, ça.
Ouais, ben, il y a eu Jacques Lang qui lui est parti, je crois, au Maroc là.
Ouais, il est parti, ouais. Je crois, il est dans une école primaire, je pense. Là.
Non, mais ouais, il est parti. Ben, c'est ça. Certainement. Je crois qu'il y a Morandini aussi qui est parti au Maroc. Ils sont toute une équipe de gens qui étaient très à l'aise hein, dans les médias, dans les. Et qui sont sur le départ. Alors, bon, faut peut-être espérer. Est-ce qu'ils vont être remplacés par les mêmes? Je sais pas quoi te dire. Moi, en tout cas, je sais que c'est intéressant. Je crois qu'il y a Patrick Bruel aussi qui est.
Là, dernièrement, c'est. En fait, lui.
Alors lui, il a pas d'arrêté préfectoral, mais par contre, je crois qu'il y a tout un tas de bonnes femmes.
Ouais,
qui
là, il y a pas mal de. Ouais. Pas mal de plaintes là. Ouais,
il a sorti sa bite dans l'ascenseur, j'ai vu ça.
Je crois, ouais.
Ouais, ça. Non mais nous on rigole sûr. Parce que bon, on n'est pas directement concerné.
C'est traumatisant.
C'est surtout le culot absolu de des mecs qui en plus s'occupent après d'associations de jeunes femmes et tout ça. Qui ouais. Non, c'est pas normal.
Mais ça rejoint un peu le fait que tu dénonces souvent quand même une justice à deux vitesses où. On peut être arrêté pour des blagues, avoir un bracelet encore, parce que voilà, et pendant des années, il y a des gens comme Jacques Lang qui ont jamais été inquiétés. Donc, moi, je trouve que, c'est pour ça que c'est intéressant de t'inviter, c'est de parler de ça, justement.
Le deux poids, deux mesures.
Oui, quand même.
C'est un vrai sujet de comédie, hein. Pour un humoriste, tu te dis, c'est vrai que c'est quand même incroyable qu'ils arrivent encore à nous faire croire qu'il y a une justice en France. Là, ils ont requis, je crois, 18 ans de prison contre Ramadan.
Oui. Ah oui, ouais. C'est tombé.
Et zéro viol. Contre tous les violeurs qu'il y a. C'est beau. Et Patrick Bruel, là, il chante. Ah, c'est beau. Moi, je dis, magnifique. C'est même plus du deux poids, deux mesures, c'est je te crache à la gueule, je te pisse à l'arrêt. C'est ça. C'est un peu le sentiment qu'on a aujourd'hui quand on voit le système judiciaire français. Mais en tant que noir, je n'attendais pas mieux de... tu sais qu'il y a plus de noirs en prison aux États-Unis qu'il y en avait dans les champs de coton. Ça te donne quand même il y a une intégration qui est délicate, qui est difficile.
C'est un peu dur de s'intégrer aux États-Unis.
C'est difficile.
J'avoue, ouais, je connais pas trop le sujet.
Non, mais tu sais, les États-Unis et la France, c'est un peu la même histoire. Moi, si je suis là aujourd'hui devant toi, normalement, je veux dire, c'est parce qu'il y a eu la colonisation, il y a eu le brassage, la langue française qui est extraordinaire, qui aurait pu être un lien formidable entre nous. Mais il y a quand même toute l'histoire qui va avec, quoi. Il y a tout l'esclavage, il y a la traite des Noirs, c'est quelque chose, si tu veux, c'est important de considérer que ça a existé. Et sinon, je serais pas là. Sinon, pense que mon père serait pas venu si on avait pu bénéficier, de nos matières premières, normalement, quoi, et puis se développer. Donc, c'est un pays de voyous, de voleurs, les États-Unis, la France, et qui nous parle maintenant de bienfaits de la colonisation. Oh, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Par contre, il n'y a pas eu les bienfaits de l'occupation allemande. Non, ça n'a pas été... ça s'est mal passé. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, c'était des Blancs qui s'en prenaient à des Blancs. Là, dans l'affaire Epstein, pourquoi tout d'un coup, il y a un scandale planétaire? Parce qu'il a des petites blondes aux yeux bleus. Parce que les voyages au Maroc ou en Thaïlande, ça n'a pas arrêté, ça a toujours existé, quoi. Les villes d'enfants du tiers-monde, si tu veux, c'est quelque chose... Ils n'en parlent même pas. Je crois que c'était le fils Mitterrand, le neveu Mitterrand, qui racontait qu'il allait s'amuser là-bas. Il a fait un bouquin, tout le monde... c'est bien intéressant. Donc toi, le deux poids, deux mesures, quand t'es noir, de toute façon, faut savoir rire, ou alors...
Sinon, t'es foutu, quoi.
Ou alors tu pars, tu te laisses piéger dans le piège de la violence et de, contre toi-même, les drogues, les machins, ou alors...
Mais ça a été un sujet intéressant dans tout ce que j'ai vu. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. C'est qu'il faut quand même que je revienne à la fonction première de ta venue. Tu voulais un droit de réponse à Elise Moon. Donc ouais. J'ai isolé quelques extraits donc du podcast qu'on avait fait avec Elise Moon.
C'était qui, ici. Ah
ouais. C'était là, ouais, exactement. Et qui d'ailleurs s'est très bien passé hein, l'épisode avec Elise Moon. Je remercie d'être venu encore Elise parce que c'est quelqu'un d'adorable. Et donc ouais, on voulait revenir sur des choses. Voilà, il y a deux extraits que j'ai isolés. Donc,
Dudo, il avait fait une blague sur les chocolats en disant, de toute façon, Elise Moon n'y remplit plus. Même si on donne des chocolats et des invitations, il n'y a personne qui vient.
Il va dire, ouais, envoie les chocolats.
Et cette vieille vanne est encore... Parce que les fans de Dudo, c'est des durs. Et je reçois plein de trucs comme ça. Et en fait, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, déjà... moi, je vous invite, si vous voulez. Et venez voir ce que je fais. On est complètement dans l'esprit de ce qu'on faisait avant. Et c'est vrai que je suis aussi politiquement incorrect que lui, le racisme en moins. Mais c'est exactement pareil. On fait la même chose tous les deux, encore.
Magnifique.
Voilà. Donc, tu voulais répondre précisément à cet extrait, évidemment, puisque bon, t'es quand même accusé de racisme. Et c'était bien de revenir là-dessus.
Ouais, parce que je veux dire... Élie qui donnerait des cours maintenant, c'est extraordinaire que moi je serais raciste et lui ne le serait pas. C'est-à-dire que lui il dit le racisme pour moi. Non mais Élie, enfin, Élie, ça n'a pas de sens. Je veux dire, je vais pas, je peux difficilement répondre parce que plus il va, plus il avance dans cette direction-là et plus effectivement les gens viennent lui dire t'es vraiment un ringard. Et je me souviens d'Élie, il avait une peur, c'était Jean Lefebvre. Il voulait pas finir comme Jean Lefebvre. Malheureusement, je pense que c'est... Tu sais, c'est comme le mec qui a peur, il est en ULM, il doit se poser dans un champ, puis il y a une moissonneuse, il faut surtout pas... Puis en fait, il est attiré par... Donc c'est un nouveau Jean Lefebvre, et je dirais, aigri. Alors que Jean Lefebvre était juste alcoolique à la fin. Donc c'est terrible parce que c'est évidemment que Élie me dit le racisme en moins, parce que qui a dit ça? Qu'un blanc comme lui vienne me dire que je suis raciste? Qu'est-ce qu'il a raconté sur les noirs lui? Quelle blague il a fait? Mais c'était pas raciste. Sur les jaunes, c'était pas raciste toi. Et moi c'est raciste par contre. Élie, profites-en bien parce que tu sais à un moment donné. Mais il le sait, comme c'est mon ami. Il le sait. Le jour où ça tourne dans l'autre sens, il pourra toujours venir chez moi.
Moi, j'ai mon avis sur la question. Je pense que aucun de vous est raciste. En fait, ça me paraît assez
évident
de l'humour. Et alors sur le côté ringard, moi, je suis allé voir son spectacle il y a pas longtemps, et j'ai été surpris par j'ai vraiment ri de bon cœur, quoi. Son spectacle, en fait, souvent il est un peu taclé par les gens, genre t'es plus drôle et tout. Je le dis vraiment ouvertement, son dernier spectacle est bon. Tu vois, si je sais pas si un jour tu le verras, mais
non, mais j'irai peut-être le voir. Je vais voir. De toute façon, j'ai le problème de mon bracelet électronique.
Oui, c'est ça.
Mais moi je sais qu'il a un potentiel humoristique qui est énorme, Élie. Hein. Après, je trouve que l'écriture est pauvre. Jusqu'à présent, c'était pas.
Il y a toujours eu des auteurs, de toute façon.
Puis il a du mal à se renouveler. Maintenant, peut-être que quand il dit c'est politiquement incorrect, non, Élie, t'es pas politiquement incorrect. Politiquement incorrect aujourd'hui, t'es devant les tribunaux. Il y a pas de politique. En fait, la politique, on va dire en termes de liberté d'expression aujourd'hui, il y a une politique extrêmement réduite. Tu ne peux pas être politiquement incorrect. Tu peux pas. Sinon, t'es devant les tribunaux. Et pas devant les tribunaux, Élie.
Mais j'ai l'impression que vous pouvez pas dire les mêmes choses. Tu vois, j'ai l'impression que Il y a, toi, t'as un passif qui fait que si tu disais ce qu'il disait maintenant en spectacle, ça passerait moins, tu vois. Actuellement, donc il y a un côté où quand même, quand j'ai vu son spectacle, je dis il va quand même assez loin. C'est peut-être ça qu'il appelle par politiquement incorrect. Ouais. C'est peut-être le côté, c'est pas accepté par les gens de manière générale qui vont se.
Non, mais moi, c'est mon ami. Mmh. Donc, je sais qu'il a, il a un vrai potentiel. Mais quand il dit politiquement incorrect, il se rend pas compte du monde dans lequel on est. Mmh. Ça existe plus. C'est fini, Ellie. C'est pas parce que, tu vois, aujourd'hui, un humoriste, il est là pour mettre le doigt sur quelque chose, sur les nœuds, sur les tabous. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine, moi. Et donc, le politiquement incorrect dont il parle, ce serait d'être un peu comme le bouffon qui est à la cour du pouvoir, du roi, et puis qui, oh là, qui se met en risque. Il a jamais été en risque. Il est pas en risque avec son spectacle, Ellie. C'est pas, moi, enfin, je l'ai pas vu. Donc, peut-être. Encore une fois. Mm. J'irai le voir avec plaisir. C'est d'ailleurs si c'est possible, si j'ai l'autorisation.
Mais tu peux faire ça, faire passer ça pour un truc de travail peut-être, pour ton métier. Je sais pas. C'est
ouais, s'il me fait un courrier pour le juge d'application des peines, j'y voilà, on envisage avec Ellie de refaire un sketch, mais il faudrait que j'aille voir son spectacle pour voir si. Mais comme il m'a dit que c'était politiquement incorrect, je sais pas si vous avez accepté.
D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que justement, c'est l'extrait d'après que je voulais te montrer.
Il faut pas leur répondre évidemment, mais. Là, je suis en train de le faire, mais venez voir les spectacles, venez voir comme c'est plein, venez voir comme c'est drôle. Mais bon, c'est compliqué, ça sert à rien.
C'est, ouais, c'est un...
Mais c'est vrai que j'entends, et moi aussi, en tant que fan de Dieudo, et du duo qu'on avait, je rêverais de remonter sur scène avec lui. Vraiment, hein.
Mmh. Ben, c'est vrai que quand je tombais sur cette affiche.
Voilà, et on parlait de l'affiche ensuite où vous étiez en SS et en KKK, t'avais vu cette affiche.
Ouais. C'était prémonitoire en fait, et je pense qu'effectivement il y avait, on aurait un rôle important à jouer dans l'apaisement. Moi, c'est ce que je lui ai dit depuis un petit bout de temps, mais si on le fait pas, c'est qu'il a peur. Il a peur parce qu'il y a quand même, on l'a vu, c'est pas du complotisme que de dire que j'ai eu quand même sur le dos. Epstein, moi, j'ai eu le réseau, la banque Rothschild, c'est pas Ellie, c'est pas une imagination de ma part. Mm. Donc je sais bien qu'il a rien à voir avec cette mafia, Ellie. Je le sais bien. Je n'ai jamais fait l'ombre d'un amalgame. J'ai jamais dit voilà, non, Ellie est un ami. Epstein, non.
Ah bah non.
Ça c'est pas un ami. C'est... Et d'ailleurs, il aimait dans tous les mails qu'on a découvert. Il y a une négrophobie extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'il est très raciste et que dans toutes les jeunes femmes qu'il a abusées, il refusait les noirs. Donc c'est positif.
Ça vous a servi.
Ah, des trucs qu'on a. On n'a pas grand-chose. Mais ça, au moins, il nous aimait pas. Et alors peut-être pour nettoyer, peut-être après.
Oui.
Il devait y avoir vraiment des dégueulasseries.
Mais on sait même pas 10% de ce qui s'est passé sur ces îles, ces trucs, c'est une dinguerie, quoi.
Ouais, on parle de choses qu'on peut pas imaginer, ouais. D'élevage d'enfants, de sacrifices, enfin bon, des trucs, je crois qu'on n'est pas profilé pour comprendre, en fait. Mais l'argent rend fou, hein, quand t'as tout cet argent-là, peut-être, hein, bon.
L'argent, le pouvoir, je pense que ça fait au bout d'un moment, quand on veut toujours plus, peut-être qu'on sait pas quand s'arrêter.
Mais est-ce que l'argent, c'est pas le pouvoir?
Oui, c'est lié, forcément, hein. Je crois que c'est de l'argent qui est au-dessus même.
C'est ça. C'est-à-dire que Macron, c'est un ancien salarié du groupe Rothschild. Ouais. Donc est-ce qu'ils placent pas leur, et moi, dans mon cas, Valls, c'est incroyable la carrière. Il est maire d'Evry, il va devenir ministre de l'Intérieur et premier ministre. Et il est poussé par qui, par quoi, par comment ça se passe? Qui prête de l'argent à la France? Faut s'interroger. Oui. Quand la France dit bon, ben on va demander de l'argent à qui? Pas à moi.
Par
les impôts, on donne, oui. Mais on prête pas.
Non, non.
Ils prêtent, en fait. C'est autre chose. C'est-à-dire que ce que t'as, c'est à eux. Mais il y a des gens au-dessus, ils peuvent pas prendre. Et d'ailleurs, pourquoi ils peuvent pas leur prendre? Alors là, ils ont perquisitionné le groupe Edmond. Je sais pas si vous imaginez, c'est la première fois dans l'histoire que cette banque fermée, qui cultive la discrétion, la police, toc-toc, rentre, prend les ordinateurs. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Parce qu'il y a quelqu'un qui met 5, 6 millions ou 10 millions en espèces. C'est bien qu'il explique peut-être d'où ça vient.
Ouais, c'est sûr.
Donc là, tous ceux qui avaient mis leur argent dans le groupe Edmond Rothschild.
Ils sont en PLS, ouais.
Ouais, pour situer ça, effectivement, il y a vraiment eu donc une perquisition donc dans les bureaux parisiens donc qui est de Edmond de Rothschild, et on parle donc du coup le nom de alors au cœur de l'enquête figure Fabrice Haydan, diplomate de rang intermédiaire détaché auprès des Nations Unies entre 2006 et 2013, puis employé de la banque entre 2014 et 2016.
C'est ça.
Donc, son nom apparaît dans plus de 200 documents rendus publics par le département de la justice américain, donc les courriels de Epstein. J'ai dit courriel, hein, mais je voulais dire email, bien sûr.
Non, mais ça, en fait, ça montre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qu'on dit là, c'est que les institutions qu'on voit publiquement, les débats télé, etc. Tu te demandes si c'est réel, quoi. Parce que tu sais que le pouvoir n'est pas là, quoi.
Non, mais je rigole parce que ce qui est bien, c'est que je vois chez toi une recherche de vérité, un peu de quand même. On nous aurait menti. Je crois qu'on nous a menti. Vous êtes plus jeune que moi, il y a de l'espoir. Je crois qu'on nous a menti, en fait.
Mais en fait, pendant longtemps, tout ça, c'était des théories. Tout ça, c'était des théories du complot pendant longtemps. Et là, maintenant, il y a des documents assez factuels avec des sources de plus en plus vérifiées et vérifiables qui montrent que c'est peut-être pas un complot, en fait.
Mais en fait, ça paraît lunaire quand tu vois un mail de Bill Gates qui dit, et ça, c'est vrai, hein, je vais aller vérifier plusieurs fois parce que je n'y croyais pas, qui dit « Comment monétiser une pandémie ?» Moi, pendant le Covid, j'étais un peu une figure du complotisme, entre guillemets, parce que je remettais un peu en question, et je me disais, est-ce que tout ce qu'on nous dit, c'est vrai? Est-ce qu'il y a tellement d'argent en jeu? Pour moi, c'est évident que, on n'est pas peut-être loin de la vérité. Et là, quand on voit que même dans les fichiers Epstein, il y a Bill Gates qui se demande avec Epstein comment monétiser une pandémie, tu te dis, ah ouais, en fait, peut-être on nous a pris pour des cons pendant un moment, quoi.
Et t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, l'obligation vaccinale, comment elle a été gérée dans les départements d'outre-mer. Les gens ont dit non, on veut pas de ça. Pourquoi? Parce que la souveraineté du corps, c'est quelque chose, quand tu es descendant d'esclaves, qui est extrêmement... on peut pas revenir là-dessus. Et que des gens viennent te dire, on va te piquer, non.
Ouais, ça passe pas, ouais.
Non, ça passe pas.
Je crois que c'est en Polynésie française, il y avait plus de 50% qui n'avaient pas été vaccinés.
Non, mais c'est-à-dire que même là-bas, si tu veux, c'est... Même le personnel, tout ça, non. Non, non. Et ouais. C'est pas 50%, c'est 90%, je le dis.
Oui, je disais officiellement.
Parce qu'en réalité... Et d'ailleurs, ça a posé un problème. Le ministre est allé voir, dit, non, mais quand même, c'est bien, c'est bon le vaccin, qu'est-ce que vous arrive. C'est bon pour le moral. Elle a dit, bon, écoute, tu prends ton vaccin, tu te les fous bien profond, et tu reprends ton avion, et tu retournes là-bas. Et c'est là aussi où, si tu veux, le peuple de France commence à découvrir qu'il est traité comme un animal, avec ce vaccin obligatoire, comme du bétail, comme un cheptel. Et cette notion, cette chosification de l'être humain, je crois qu'elle a, la lutte aux Antilles a vraiment été reçue ici. Et il y a plein de gens que j'ai vus qui étaient, nous on va faire comme les Antillais, comme les Martiniquais, comme les Guadeloupéens. Et c'est que ça n'est que le début. C'est-à-dire, là vous voyez ce qui se passe avec les Kanaks, tout ça, c'est.
Les Kanaks, moi j'ai joué en Nouvelle-Calédonie,
ouais,
justement.
Moi aussi.
Et j'ai senti, ouais, on m'a dit, j'ai senti là-bas, plus de tension qu'ailleurs, quoi. C'est-à-dire que dans les dom-toms ou même en Polynésie française, ça va bien, et là-bas, Kanak, c'est chaud, quoi.
Ouais.
C'est chaud parce que bon, il y a eu un référendum pour savoir si on voulait l'indépendance ou pas. C'était très chaud. Il y avait 50-50.
Il faut dire au préfet de partir. Il faut le français. Il faut partir. Partir parce que bon, voilà, c'est la plaisanterie a duré, quoi. C'est pas une histoire ethnique. Il y a des blancs qui vont rester. La justice, la monnaie, les relations extérieures avec les autres pays, ça doit être géré par les Kanaks. C'est plus la France. C'est tellement logique. Si tu veux, ici, il y a certains petits villages où les gens disent, quand même, on se sent plus chez nous. Voilà. Ben là, c'est pareil. Et je pense que le brassage forcé, organisé, politiquement mis en place, c'est pas bon. Il faut que ça se fasse naturellement, ces choses-là. Ça peut pas être... Et là, avec les référendums, on a envoyé des métropolitains pour peser dans la balance, pour faire en sorte que les Kanaks... Alors que les Kanaks sont... chez les Kanaks, c'est pas 50-50 qui sont pour l'indépendance, c'est 90. Voilà. Ils veulent être indépendants. Et ce qui fait que c'est 50-50, c'est simplement des blancs de métropole.
Ouais, c'est des blancs qui ont le droit de vote. C'est un peu technique parce que à partir, parce qu'il y a des blancs qui ont le droit de vote là-bas qui se disent canac. En fait, c'est là où tu te dis bon, à partir de quand t'es canac ou pas. C'est ça qui remet un peu. C'est ça où je me posais la question, tu vois. Je dis, est-ce que si t'es là et que t'as eu la possibilité de voter, est-ce que tu peux te dire canac, c'est ça?
Pas, tu seras jamais.
Ouais.
Et je pense que c'est important. Il existe en France une communauté noire. Et les Kanaks en font partie. Et c'est fini, on sait que ça marchera pas. C'est fini, ça peut pas marcher. Que ce soit aux Antilles, regarde la situation aux Antilles. Comment ça se fait? Aux Antilles, t'as une famille Béquet, donc descendant d'esclavagistes directs, qui se reproduit en race pure, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Hein. Et ils détiennent tout le foncier dans la Martinique. Comment ça se fait? Tous les magasins, tous les trucs, comment ça se fait? Ils ont été subventionnés au moment de l'abolition de l'esclavage. On leur a donné de l'argent. L'État français leur a donné de l'argent. Est-ce qu'on pourrait pas maintenant reprendre tout ça à la France, par exemple, et redistribuer pour que tout le monde puisse... Puis, imagine la famille Göring qui soit aujourd'hui propriétaire de la moitié de la France. Toi, tu dirais quand même, c'est pas normal. Faut pas oublier, là, il y a le grand-père Ayotte, il disait... T'en fais ce que tu veux. Il faut être juste. C'est comme un enfant.
C'est facile à mener, les ouvriers noirs?
Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut.
Quand je vois des familles métissées, enfin, blancs et noirs, les enfants sont de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie. On a voulu préserver la race.
Et je crois que, si tu veux, les Antilles, c'est vraiment un laboratoire pour dresser sur plusieurs générations, faire d'esclaves des citoyens. C'est doucement, c'est exactement la même chose dans leur esprit, mais on va mettre le vernis de la République. Faut pas oublier que sous la République, si tu veux, il y avait autant de gens en Afrique qui étaient volés, pillés. La République, c'est les droits de l'homme blanc.
C'est ce que tu dis en spectacle.
Mais oui, mais pourquoi l'Europe, là, la France, elle veut aller en européen. Mais on est africain aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu 200 ans de présence en Afrique. On parle la même langue. Pourquoi pas parler de la francophonie? Parce que nous, on est noirs et qu'ils veulent pas. On n'est pas la même. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir, ça. Et donc, faut pas insister. Et c'est pour ça que là, en ce moment, en Afrique, il y a un rejet de la France très fort. C'est dommage parce que les peuples peuvent communiquer entre eux. Il y a beaucoup plus de proximité entre un centrafricain et un français qu'entre un français et un slovaque.
Ouais, c'est clair.
Tu peux parler. Tes enfants peuvent parler, peuvent jouer ensemble. Ouais. Là, et ça se fera pas. Pourquoi? C'est la couleur de la peau. C'est la texture des cheveux.
C'est dommage d'ailleurs.
C'est une erreur. La décolonisation, c'est mal faite. Et aujourd'hui, la guerre qui se mène en Iran, c'est encore une guerre ethnique. Des blancs contre les non-blancs. Voilà. Et ils voudraient que nous, on soit d'accord. Non, je suis pas d'accord. Moi, c'est mon camp. C'est pas le camp de l'Occident et de la race blanche. Déjà, il y en a, hein. Il y en a une, d'ailleurs, à la télé, mais elle est ridicule, la pauvre. Je parlerai pas d'elle, parce que je... tu sais, c'est terrible. Quand t'as une femme, mais t'es noire. Non. Merde. T'es quoi? Je suis républicaine. Merde. Ça se voit pas tout de suite, hein. T'es au courant. Non, mais c'est la capacité...
On sent en tout cas dans tes spectacles que t'as été marqué par ça, que tu parles souvent de la concurrence victimaire, etc. Ça a été une grosse partie de ton œuvre finalement.
Ah ouais, complètement.
Et c'est aussi pour ça que t'as eu des problèmes, hein, parce que t'en parlais et que tu mettais le doigt sur des choses qui dérangent. Alors est-ce que c'est véridique, est-ce que c'est pertinent, c'est pas à moi d'en juger, mais on voit que c'est vraiment un truc qui a été très fort dans ce que t'as fait, quoi.
C'est de ce que je suis en fait, toi, la différence entre les Coluches, les machins. C'est d'autres histoires. Moi, ils m'ont inspiré. Attention, les Inconnus, Coluche, Desproges, Prévost. C'est des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Mais j'arrive pas avec les mêmes bagages. Moi, j'ai pas la, quand tu parles, c'est aussi tes ancêtres qui parlent. C'est d'où tu viens, c'est tes racines. Et moi, elles sont très, très, très profondément africaines. Oui. Parce que j'ai même pas besoin de le dire. Ça se voit. Moi, je trouve formidable les gens enracinés. Quand je parle, parce que ma mère est bretonne, avec des bretons, je suis super content d'apprendre tout ça, tout ce qui s'est passé. Il y a un lien, d'ailleurs, entre les deux. Avec la magie, les contes et légendes, comme s'il y avait une part de l'imaginaire dans la société qui est très importante chez les Bretons, avec les druides, avec cette philosophie ancestrale qu'on retrouve en Afrique. Et donc je sens, mais je me reconnais pas du tout dans cette France là. Moi, j'aime la France des Gilets jaunes, où là j'ai vraiment trouvé une solidarité incroyable, où il y avait plus de couleur de peau, plus rien. Mais arrivé au moment des, toi, à un certain niveau, et les Rothschild, par exemple, là, il y a un racisme anti-noir qui est, faut savoir qu'une bonne partie de leur fortune s'est fait aussi sur les matières premières africaines et sur la traite des Noirs et tout ça. Et ça, toi, on peut pas, et on l'apprend pas à l'école. Mais qui était armateur et banquier au moment de la traite des Noirs?
Mais en fait,
moi, ça m'intéresse directement.
Oui, c'est sûr. Mais je crois que les Rothschild, moi, j'avais regardé un peu parce que c'est un des propos que tu dis. Ils avaient l'air pas d'accord sur la temporalité. Genre ils disaient que les Rothschild avaient fait leur fortune plutôt plus tard. Alors bon, ça c'est des sujets qui sont tellement touchy.
Napoléon déjà le casse de Waterloo. C'est-à-dire Waterloo, il y a Nathan Rothschild qui est lui à la banque de Londres. Parce qu'ils se sont séparés, chaque fils est parti dans une ville. Et Nathan Rothschild, que Napoléon, dans le match contre l'Angleterre, il s'est pris une dérouillée. Et donc il revient à la bourse de Londres, et là il fait croire que, parce qu'il a eu l'info et que les autres n'ont pas l'info, c'est du délit d'initié en fait. La fortune des Rothschild, c'est du délit d'initié. Il fait croire que l'Angleterre a perdu, tout le monde vend, lui il rachète par derrière, et c'est là que va naître cette fortune colossale. À l'époque, c'était du jamais vu. Il est devenu, et donc c'est vraiment c'est un groupe mafieux sur le délit d'initié. Tu regarderas c'est très intéressant, le Waterloo et Rothschild, et c'est Nathan Rothschild qui, alors et d'ailleurs ils en parlent, tu vois, c'est accessible sur Internet.
Okay, ouais.
Mais ce qui est drôle, toi, c'est que c'est accessible sur Internet. C'est Napoléon parlait des Rothschild en disant, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc quand l'État demande, en fait, elle est sous le contrôle de ceux qui donnent de l'argent. C'est Napoléon qui te dit ça.
Donc ça t'aide pas d'hier que cash is king, quoi.
Ouais. Mais Rothschild, c'est pas les Juifs.
Non.
C'est une famille juive. Mais et ils se développent en clan. Mais c'est pas, ils n'ont rien à voir avec Ellie, avec oui, tout. Voilà,
mais
avec
c'est d'ailleurs souvent ce que tu dis, et que quand t'es traité d'antisémitisme, tu dis que toi tu pointes du doigt une mafia et pas les Juifs de manière générale.
Ben évidemment. Et Epstein, il le dit assez souvent qu'il est juif et c'est au nom de ça qu'il peut baiser des gosses.
Oui.
Et voilà. Mais c'est pas les Juifs.
Il représente pas tous les Juifs.
Ah, non.
Et heureusement.
Ben oui.
Et c'est important de le préciser. C'est comme si tu disais que la mafia en Sicile représentait tous les Italiens.
C'est un peu pareil.
Donc, t'avais une question.
Si c'était que la mafia sicilienne à côté de la mafia Rothschild, c'est des scouts. C'est pour déconner, quoi.
Ouais,
c'est des mecs des gangs de rue, quoi.
Là,
on parle de gens qui organisent des guerres, qui sont capables de financer un côté, de l'autre. Battez-vous, et on va reconstruire.
Moi, la question que je me posais, justement, en préparant même cette interview, c'est, tous les arrêtés préfectoraux que t'as aujourd'hui, ils sont sur quel fondement? Ils sont sur quel sujet pour dire que t'as pas le droit de jouer aujourd'hui?
Alors, c'est absolument ubuesque. Ça revient sur un siècle de jurisprudence, la loi Benjamin, qui prévoit, enfin, qui dit que, voilà, il y a une liberté d'expression totale en France. Voilà. Et moi, en fait, on peut interdire à partir de mon ordonnance, a priori. C'est-à-dire que, avant que tu t'exprimes, on peut interdire sur une réputation, on va dire oui, mais il dit qu'il va dire ça, mais on pense qu'il va pas le dire. Donc on va l'interdire. C'est hallucinant. C'est-à-dire que je suis, à moi, tout seul avec mon ordonnance, l'arrêt de la liberté d'expression en France. Voilà. Je symbolise ça.
Mais d'ailleurs, historiquement, est-ce que t'es le seul humoriste à avoir été interdit oui. de faire un spectacle? T'es le seul, j'ai pas vu d'autres.
Ouais.
Donc en fait, oui, c'est ça, tu représentes la limite de la liberté d'expression.
En France, il y a de liberté d'expression totale, on est tous Charlie. La limite, c'est Dieudonné. Charlie, qui me présente en une avec un cerveau d'une noisette, ou je sais pas quoi, une caca, et mon public comme des cafards. Donc, eux, ils ont une liberté d'expression qui est totale. Eux, quelle différence entre eux et moi? Alors, comme ça, je me dis, bon, là, moi, je suis noir. En fait, je crois que c'est Aimé Césaire qui m'avait dit, rire avec l'histoire, avec la souffrance noire, vous allez déranger du monde, évidemment. Je préfère que tu fasses du foot, du rap ou de la poésie, ça c'est certain. Mais quand tu commences à rire du mec qui t'a fouetté en disant c'est tout ce que t'as dans le sac.
C'est vrai que je suis pas très à l'aise avec ces blagues-là. Ouais.
Mais en fait, il faut. Je crois que chaque société, toi, je te parlais d'un humoriste iranien, il y a des limites aussi hein, à l'expression là-bas. Comme en Israël aussi, il y a des limites. Ouais. Toi, chaque culture a ses limites. Mais la France, c'est des cultures qui ne concernent pas les Français. C'est ça qui est étrange. C'est les intérêts de l'État d'Israël. Ah, tu dis, merde. Tu sais très bien, en tant qu'humoriste, que tu peux pas commencer à plaisanter. D'ailleurs, la loi te le dit, puisque la loi Guesso est une loi qui quand on me posait la question, je sais plus quand c'était, on me disait, mais toi, tu crois dans les chambres à gaz? Mais c'est la loi. C'est la grande différence avec toute l'histoire du monde entier, c'est que là, c'est une histoire légale.
Et ça a changé dernièrement, non? Ils ont pas ouvert justement à tous les crimes contre l'humanité en 2017?
Tu peux dire que la traite des Noirs n'a pas existé? Je le dis, moi. Ouais. La traite des Noirs n'a pas existé. Aucun problème.
Mais parce que
qui va me poursuivre?
Il me semblait que c'était pas juste jusqu'en 2017, mais qu'en 2017 ils ont fait genre un délit pour tous les crimes contre l'humanité. Peut-être je dis merde.
C'est la loi Taubira qui a été vidée de toute sa substance. C'est-à-dire que les Noirs, on a reconnu que c'était un crime contre l'humanité, mais contrairement à un autre, au seul, il n'y aura pas de réparation. Ah, merde. Mais d'un côté on doit réparer et de l'autre côté on répare pas. Et Hollande a dit une chose extraordinaire, parce que ça n'est pas réparable. Oh, t'as envie d'applaudir, c'est beau. Il suffit simplement de reprendre la terre des béquets et de la redistribuer, ne serait-ce qu'à la République. Non, on peut pas. Là, Macron a décoré Ayotte, donc descendant béquet direct, là, et il a dit qu'il a remercié, il a donné la Légion d'honneur en disant « Vraiment, tout ce que votre famille a fait pour la France, c'est extraordinaire. » Et moi, je suis humoriste. Donc, je rigole, quoi.
Ouais, ça te fait de la matière, on va dire.
Ben, ouais. soit tu chiales, soit tu te mets à rigoler, parce que il va bien falloir, à un moment donné, faire sortir la pression par un bout, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que, du coup, actuellement, finalement, pour revenir à ce que disait Ilias, tu es interdit de jouer, on doit faire 200 km en voiture pour te voir dans un bus, sur la base de « on ne sait pas trop ». En fait, sur la base de,
il y a trop de gens qui le suivent, il faut que ça s'arrête. Parce que les salles de spectacle, ben, t'es bien placé pour le savoir, pour remplir des salles de 1000 personnes, faut quand même normalement le soutien du système, c'est-à-dire de la pub, dans les médias, des affiches. Moi, j'ai rien du tout. J'ai rien de zéro.
Plus les réseaux sociaux.
Non, mais j'envoie un mail. Ouais. 2000 personnes qui viennent ici, dans toutes les villes de France. Donc, imagine si j'avais des affiches et si je pouvais dire, tiens, ben, la dernière émission, tu parlais d'Élie. Quand je lui disais, mais t'intéresses plus personne, mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on a fait une émission chez Légende. Bon, voilà. Il est clair que, d'un point de vue, l'intérêt, à partir du moment où l'intérêt que chacun produit sur le grand public, il est multiplié par 10 en ce qui me concerne. Et c'est pas forcément par le talent de chacun, c'est par le parcours. C'est-à-dire que on a envie de m'entendre parce qu'on dit tellement de choses sur moi qu'on a la curiosité pousse les gens à dire non mais attends, je vais aller le voir, c'est pas possible, c'est vraiment le diable.
Tu veux dire en nombre de vues, c'est ça? Oui. Ça fait plus de vues, je crois que t'as 6,4 millions de vues à l'heure actuelle sur Légende. C'est Eli, il en a 600 000 à peu près.
Tu vois.
Mais est-ce que c'est pas justement parce que t'es moins dans les médias mainstream et traditionnels comme Guillaume Play par exemple?
Alors, c'est possible. C'est possible. Mais moi, je pense aussi qu'il y a une lassitude avec le temps. Et que je pense que l'intérêt du public, c'est quelque chose qui se travaille par le travail. Ouais, c'est plus tu travailles, en fait, c'est jamais acquis. Et bon, moi, je pense que j'ai emprunté une voie assez singulière où je suis le propre cobaye de mes expériences. Quoi. Et en termes de d'histoire dans le monde de l'humour, je fais partie de l'histoire de cet exercice. Parce que ben on a c'est moi qui ai fixé les limites, voilà. Ouais. Et j'ai aussi une endurance assez remarquable pour certains. Alors que pour moi elle est naturelle puisque je fais ce que j'ai à faire quoi. Ouais. C'est mon métier de cœur. Maintenant c'est la peinture parce que la peinture c'est encore plus libre. Là je vois pas comment ils vont m'interdire mes expositions.
D'ailleurs, on peut acheter du Dieudonné, ça coûte combien une toile de Dieudonné ?
Alors moi, j'ai commencé il y a pas tellement longtemps hein et alors mes toiles au début, donc j'avais mis on savait plus 1 500 €. Alors et puis on a tout vendu. Ouais. Donc deuxième expo, on est monté à 4 000 €. Troisième expo, 10 000 €. Et là, je suis sur une séquence avec le mail donc Epstein. Et là on s'envole. C'est-à-dire là c'est
30, 50,
20, 30, ouais, ouais. 30. Et donc c'est pour ça que je te dis, pour moi c'est un nouveau métier. Ouais, oui. Et en fait j'ai 60 ans donc je pourrais pas en faire non plus des tonnes, donc
c'est limité, t'as pas un nombre de...
Oui, c'est-à-dire que j'ai en plus, c'est numéroté,
ouais.
C'est co-signé par un préfet, c'est de l'art administratif, je lance en plus un nouveau genre, une nouvelle école, comme les impressionnistes, les cubistes, il y a maintenant l'art administratif, il y a une jeune femme d'ailleurs, Kyria, qui est une paysanne, qui était artiste, et à qui on a interdit, je sais pas, enfin, on lui a imposé des vaccins, elle ne voulait pas, donc la préfecture lui a envoyé une lettre, et un arrêté, et donc elle l'a fait sur mon modèle, elle l'a fait, donc c'est un courant qui est en train de se mettre en place, Nicole.
De créer un courant de peinture.
Ouais. Mais c'est intéressant parce que c'est une page d'histoire, chacune de mes œuvres, en fait, est une page unique d'histoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la censure, de l'interdit. Mais c'est pas une posture artistique, moi. C'est la réalité. Et en plus, c'est plutôt joli. Tu peux mettre ça dans ton salon sans honte. Donc voilà. Au début, c'était un peu de la merde, mais maintenant, ça commence à être pas mal. Ouais.
Et ce qui est ouf, c'est vu que c'est numéroté. Quand on aura plus, faut que tu refasses une tournée.
Non, parce que là, avec les mails, par exemple.
Ah, tu fais des mails.
Non, les mails Epstein. Oui. Mais je fais aussi des séries avec des choses qui sont en dehors des arrêtés. Tu vois. Là, c'est plus trop de l'art administratif, quoique c'est considéré que Ariane de Rothschild est au-dessus de l'administration, ce qui est tout à fait cohérent. Et donc, je reste dans cette école de l'art administratif et je suis. Ce qui est drôle, c'est que jusqu'à présent, il y a quelques personnes qui étaient intéressées, puis là, ça fait boule de neige. Parce qu'il faut savoir que, sur le plan fiscal, une œuvre d'art, elle est défiscalisée. Ça, c'est la loi Fabius, qui était lui-même fils d'antiquaire, de collectionneur. Enfin, bon, il s'était arrangé un truc en disant que, bon, c'est pour éviter que les œuvres françaises partent à l'étranger, on défiscalise. C'est-à-dire que, contrairement à des bitcoins ou de l'or, tu ne payes pas quand tu réintègres un bitcoin sur ton compte, tu payes un certain pourcentage d'impôt, de taxes.
Ouais, 30%.
Alors que ouais, c'est ça, 30%. Alors que une œuvre d'art, non. C'est en dessous de 5 000 €, c'est défiscalisé et puis même après c'est rien et t'as pas d'obligation de déclarative dans l'ISF. Pour ça qu'il y a des gens qui ont des tableaux, tu vois les grandes fortunes françaises, ils ont plein de tableaux.
Ouais.
Ça leur évite d'avoir de l'espèce sur les murs. Quoi.
Voilà.
C'est comme ça
qu'ici t'en vois pas mal.
Ouais, ici, donc il y a le mec, à mon avis.
Chez un ami, on citera pas, qui a quand même un peu d'argent. En plus, les peintures de potes, donc ça vaut que dalle.
Ça dépend. Après, tu sais, c'est une mode en fait. Après, les cotes des artistes, c'est souvent les milliardaires qui les font, puisque que ils disent que ça vaut tant, et puis après ils se revendent ça. On l'avait vu dans un dans le cas de, je crois, le bras droit de Claude Guéant. Il avait sorti deux vieilles croûtes de son je sais pas quoi, de son grenier, et il avait vendu ça pour s'acheter un appart un peu dans ce genre-là, tu vois. Pour te dire que c'est de la monnaie, en fait. Mmh. C'est une monnaie, voilà. Et le fils qui était tombé dessus, il dit, mais ça vaut rien ton truc. Il dit, ah, tu rigoles ou quoi? Et puis là, il avait montré un certificat, comme quoi ça valait ça. Mais c'est qui décide, tu vois? Quand t'en as qui chient dans un bocal et qui vend ça à 1 million, tu vois ce que je veux dire? C'est après, tu fais ce que tu veux, quoi.
Ça, c'est terrible. Et d'ailleurs, je t'ai entendu dire dans un podcast que ce serait une quenelle à mettre de en gros, vendre tes tableaux.
Ah, bah, c'est déjà ça.
Voilà, c'est ça. Et ça me permet de parler justement de cette fameuse quenelle dont tu parlais au début. En fait, l'histoire de ce geste, c'est assez fascinant. En gros, c'est quelque chose. Moi, j'ai vu la première fois que tu le fais sur scène où ça n'a rien d'antisémite. Et en fait, comment ça devient un truc qui, pour les médias entre autres, quelque chose d'antisémite. Ça m'a un peu fasciné, cette histoire.
Alors, ça a pris des proportions très très vite. C'était 2014, 2015, 2016. Tout le monde faisait des quenelles dans tous les sens, et surtout des sportifs.
Ouais.
Des footballeurs.
Nicolas Nelka, Mamadou Sakho.
Ouais,
mec très connu, quoi.
C'est ça, ouais. Et puis Teddy Riner. Plein dans l'athlétisme aussi, en fait, et beaucoup de noirs. C'est-à-dire, c'était un geste d'émancipation, c'était la deuxième étape. C'était une façon aussi pour les noirs de France de dire, ouais, bah bon, on n'est pas dupes, on nous a menti sur la liberté, égalité, fraternité. Quand tu vas chercher du boulot, quand tu cherches un logement, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et puis après, ça a rayonné dans le mouvement aussi un peu anti-sioniste, pro-palestinien. Et puis, et donc, c'est à partir de ce moment-là que il y en a qui ont dit que c'est un salut nazi inversé, tu vois. N'importe quoi. Et c'était Alain Jakubowicz, qui était à l'époque président de la LICRA, qui avait dit, de toute façon, Dieudonné, c'est simple. Les médias vont le condamner, la justice devra suivre. C'est pour vous donner l'ordre de comment ça se passe, en fait. Il y a les médias, à qui appartiennent les médias? Faut comprendre comment ça fonctionne. Bah, ces grands groupes, hein, qui ont une même banque, et donc la justice qui finalement, à force de ressac, est obligée de se coucher, quoi. Et c'est ce qui se passe au niveau des arrêtés. À un moment donné, la justice me donnait raison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tout le temps, même jurisprudence. Non, on peut pas interdire un spectacle. Puis à un moment donné, il se couche.
C'est là où tu dis que la puissance financière des banques a eu raison de l'indépendance de la justice. C'est dans le sens où, en gros, bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que quand il y a de l'argent, parfois, ça peut biaiser les institutions.
C'est même pas du complotisme, puisque moi, j'étais sur le mur des comptes du syndicat de la magistrature. C'est-à-dire que c'est un syndicat proche, donc, de ces organes de censure, qui, dans leur hall, ils ont mis des photos, et moi, j'étais au milieu. Le mur des cons. Et c'est ces mêmes gens qui venaient me juger pour mes sketchs. Bon, qu'est-ce que je te dis? Je tombe sur un juge qui me dit, oui, mais... Enfin, c'est le procureur qui me dit, le problème, Dieudonné, c'est par rapport à Coluche ou des proches, vous n'avez pas la distanciation. Merde. Ah oui, ils avaient? C'est dans la forme du nez, la texture des cheveux, ou... Comment ça se passe? Non... C'est pour ça que ça peut pas marcher. Parce que si lui décide que ce que je dis n'est pas drôle, je comprends, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire. Donc, à un moment donné, moi, je dois être jugé par des gens qui ont mon histoire, qui ont ma culture, et qui voient bien que j'ai absolument rien de... Voilà.
Ouais, bien sûr.
Est-ce que les autres humoristes, est-ce que t'as suivi, par exemple, je me souviens de Guillaume Meurice, il y avait un autre humoriste qui avait fait une chronique sur France Inter.
Oui, j'avais soutenu.
Mais il avait soutenu aussi, ouais.
Mais il avait eu peur. Il avait dit, non, je veux pas son soutien. Ah. Bon, ce que je peux comprendre, hein.
Ouais. On l'avait traité d'antisémite aussi, il avait fait une chronique en disant nazi sans prépuce, je crois, sur Netanyahou, et du coup il avait été viré et tout. Toi, c'est des choses qui t'attristent, c'est des choses dont...
Oui, comment elle s'appelle aussi, j'ai oublié son nom déjà.
Blanche Gardin.
Blanche Gardin.
Ouais, beaucoup.
Ouais, je l'avais soutenu, mais le fait de soutenir, non, mais j'ai rien à voir avec lui quand même. C'est-à-dire que, comme s'ils se rendent pas compte, en fait, j'ai été tellement diabolisé qu'ils pensent qu'ils sont récupérables et qu'ils vont pouvoir revenir dans le circuit, quoi,
ouais,
en me crachant dessus. Mais malheureusement, non, s'il a dit que ça le faisait rire ou Blanche Gardin a fait son sketch, c'est parce que ça la faisait marrer. Bon, après, elle est devenue dépressive. Mais je peux rien, moi, je veux dire, c'est vrai que c'est un peu dur.
Ouais, mais je pense qu'elle était déjà pas très bien.
Ouais.
Ouais, c'est peut-être été le coup de grâce, quoi. J'ai l'impression.
Non, le sketch était drôle, moi j'ai trouvé.
Non, pour elle, ce qui s'est passé, ouais. Tu vois, c'est, elle avait l'air pas très, je l'avais croisée, elle avait pas l'air très bien, très heureuse, tu vois, donc peut-être c'est un événement qui, voilà, je sais pas si c'est lié à ça, mais.
Bah, c'est dommage parce que quand on fait quelque chose de drôle, et qui marche bien, on devrait être content.
Mais moi, je vois souvent, ça n'a pas grand-chose à voir avec la discussion, mais je vois souvent des humoristes dans le métier, en tout cas, qui sont quasi dépressifs. Pour moi, c'est un peu.
Je pense que c'est normal.
Ah ouais.
Ouais, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils sont des putes. Non, c'est ça. À un moment donné, s'ils veulent passer à la télé et tout ça.
Je m'attends pas cette réponse.
Mais ils comprennent que pour réussir, pour avoir une carrière, il faut que tu sois vraiment une pute. Et alors au début, ils se mentent à eux-mêmes et puis très vite, non, mais une vraie pute. Merde. Et donc ça finit Palmade, Cham Sex. Ah non, mais tout ce qui s'est foutu dans le cul, l'autre ça rentre pas dans la pièce. Et donc c'est quelque chose.
Tu veux vraiment qu'on soit démonétisé?
Mais non. Mais toi tu peux le retirer. En plus je le dis avec sympathie. Lui il a plus de bracelet.
Oui c'est vrai.
Il a pas d'arrêté préfectoral. Il peut aller jouer où il veut. Donc mais en plus j'ai aucune animosité contre Palmade. Tiens, je lui proposais de faire un duo. Pierre, tu veux qu'on relance ta carrière?
Je crois qu'il est à Bordeaux, il est aussi dépressif, lui.
Non, mais franchement, le showbiz rend les gens dépressifs. Moi, j'ai été éjecté de ce milieu-là très tôt. Donc, mais ça rend dépressif parce que les gens qui viennent te dire « ça, c'est bien, fais une affiche comme ça », à un moment donné, tu dis « mais on nous aurait menti ». Tu vois, c'est que du copinage de gens qui viennent de réseaux qui n'ont rien à voir avec l'art, avec la création, avec ton inspiration, et qui te castrent, qui te brisent. Et à la fin, tu... simplement pour aller dans l'émission de machin et puis d'être de jouer dans cette salle, t'es prêt à tout quoi. Et non, il faut pas, il faut continuer à leur dire non, ce métier-là de toute façon il est porté par les gens du peuple qui viennent avec leur histoire, leur création, leur puissance comique, et c'est ça qu'il faut laisser, et c'est pas comme ça que ça marche. C'est malheureusement, je vois, il y en a beaucoup qui, d'ailleurs, ils viennent me voir, des jeunes comiques, en me disant, oh, tu vois, tu m'as inspiré, merci, tout ça. Je dis, ouais, on fait un selfie. Non mais, mais en fait, ils ont tellement peur. Parce qu'il y a tout ce qui va autour. Ils veulent faire du cinéma. Ils veulent être dans le game. Ils veulent être dans le, mais vouloir faire du cinéma, c'est être employé par une entreprise, une industrie. Renseigne-toi qui est au-dessus. Là. Est-ce que tu veux travailler pour lui, par exemple? Est-ce que ça t'intéresse? Et après, on s'étonne que le cinéma français, c'est de la merde. C'est normal. Ça devient de la merde parce que c'est plus comme avant. C'est plus des équipes de gens créatifs qui veulent faire rire les Français, qui rient entre eux. Non. C'est quelques mecs qui ont du blé et qui en boivent en discothèque, voilà.
En fait, c'est moins axé sur la création et l'art, comme tu dis, oui. C'est plus un business que de l'art maintenant, quoi.
Il y a plus de créativité sur Internet, où là, les gens, devant leur caméra, ils se mettent, il se passe un truc.
Bah, on a une grande liberté sur Internet, tu vois. Bah, si on était avec un média, tu serais pas là. Enfin, c'est triste à dire, mais oui.
Ouais, c'est vrai, mais en même temps, les médias, ils sont plus là.
Oui, aussi, ouais.
Tu vois, c'est ça aussi,
on
le truc.
On fera plus d'audience que beaucoup de médias.
C'est ça. Moi, je fais un live sur X, c'est le seul truc qui m'a pas banni. C'est le record absolu de live en direct en France, en Europe, peut-être dans le monde. 300 000 personnes en direct. Ben, si vous imaginez. Mmh. Non, mais ça, c'est... moi, je vous en parle parce que c'est pas, je suis pas de compétition, je suis pas en train de... Mais c'est incroyable de voir, et ça, c'est suite à l'affaire Epstein. C'est que, en réalité, le record sur Live X, c'est moi qui l'ai aujourd'hui.
Oui, ça veut dire que les réseaux sociaux ont supplanté les médias, quoi. Enfin, et on voit qu'il y a de plus en plus. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres écueils, c'est-à-dire qu'en gros, ben, les GAFA aussi peuvent te censurer. Donc, comment fuir les médias?
Merci à Elon Musk. Moi, tout ce que je dis, c'est vrai. Alors, combien de temps il va tenir, on verra.
Ouais.
Mais à qui appartiennent les autres? C'est ça, c'est intéressant de voir qui. Parce qu'on l'a vu dans l'affaire Epstein, ils sont tous dedans. Donc ça va être intéressant de voir jusqu'où ils sont allés. Ils sont tous allés sur l'île. À part même Musk, je crois. Enfin, je sais pas, peut-être pas.
En gros, il a dit Musk, il a dit je veux venir et faire la soirée la plus wild, la plus sauvage. Enfin, je sais pas comment ça se traduit. Mais il n'y a pas de preuve comme quoi il serait véritablement venu. Alors peut-être il a dit ouais, je vais venir et qu'il est pas venu. Tu vois, un peu comme nous dans le showbiz quand on t'invite à une émission,
ouais.
Tu dis oui, j'arrive. C'est un peu pareil. On sait pas. Alors on a peut-être qu'on en saura plus.
Mais le showbiz, moi, j'ai jamais vraiment fait partie de ce truc-là, mais j'ai quand même un peu. Et au début, c'était surtout Ellie qui s'occupait de cette partie-là. Et j'ai détesté ça. Tout de suite, j'ai... ça pue la merde. Je sais pas, les relations humaines... je me sens beaucoup plus à l'aise avec les gens du peuple. Beaucoup mieux. Beaucoup plus, c'est plus direct. J'aime pas. Et puis, ils sont prêts à se tirer, mettre des coups de couteau dans le dos. C'est sauvage. C'est rustique, c'est sauvage. Et puis... c'est uniquement basé sur les intérêts.
Mais c'est très faux, en fait.
Ouais.
Et, enfin, moi, j'ai du mal à, j'aime beaucoup privilégier l'authenticité, tu vois. Et c'est vrai que quand on voit qu'il y a des médias, qu'il y a des présentateurs, des télés, des, beaucoup d'argent, tu sens que tout est biaisé, en fait. Et moi, j'ai, comme toi, beaucoup de mal avec un milieu où tu sens qu'il n'y a pas de vérité.
Moi, j'ai pas pu du tout. Et aujourd'hui, je t'assure, quand je les vois tous, je les ai tous côtoyés, tous connus. Je les vois, je les trouve tristes. Et bon, moi, j'ai pas eu un parcours facile. Je me suis pris des patates dans la gueule, mais ça va. Et je sens que ce que je donne à mes enfants, l'héritage que je laisse, c'est cohérent. Mmh. C'est cohérent avec ce que je suis. Quoi.
Je vois que ça s'anime. Il y a un délai de temps, Caroline. Est-ce que tu dois partir à cause de ton bracelet précis? Tu nous dis quand tu dois partir?
Il est 24.
Ah ouais, bon, encore 5 minutes.
Encore 5 minutes? Ouais. Eh ben, écoute, si tu as quelque chose que tu voudrais dire, profiter pendant ces 6 minutes, qui te tient à cœur?
Ben, non, mais c'était super, là, le parler de ce showbiz, dire aux jeunes, essayez de vous développer par vous-même, en fait. N'attendez rien du système, parce que ce système-là, il est pas là pour vous aider. Il est là pour vous utiliser, pour vous presser et pour vous détruire. Il va vous détruire. Et Palmade, c'est vraiment l'exemple type. On a le même âge, on a commencé en même temps. Mais tous les autres, ils ont l'air plus présentables parce qu'ils sont mieux maquillés, on va dire. Mais c'est derrière, c'est pareil. Ils sont détruits. Et je vois les gens de ma génération, quand ils parlent et tout ça, ils sont tellement dedans, ils sont tellement dans un truc qu'on ne sent plus. Ce que je voyais quand ils étaient jeunes et quand ils ont commencé, c'est cette flamme, quoi, que je forcément j'ai pu garder un peu parce que le bracelet me réveille tous les matins. Je fais, ah ouais, quand même, je suis
il vibre le matin.
Non mais je le regarde, tu vois, et je me dis finalement je fais vraiment mon travail convenablement, quoi. C'est et je suis pas dans ce milieu là je fais pas partie de ça. Mais il y a des gens formidables, encore une fois. Il y a plein de... Moi, j'adore les artistes, j'adore les humoristes de manière générale, j'adore les artistes, je trouve que c'est formidable. Mais je les plains parce qu'ils ont vendu leur âme, pour la plupart. Et que c'est la seule chose qu'on peut pas acheter. C'est la seule chose, on peut pas tricher avec ça. C'est ce que j'ai envie de dire, même si notre métier, c'est de tricher en permanence, puisque tu joues des personnages, tu peux pas quand même tricher sur ce que t'es en dehors de la scène, quoi. Il faut pas tricher. Et je pense que ce milieu-là t'entraîne trop dans la triche, dans le mensonge, dans l'alcool, dans les abus, dans toutes ces saloperies, quoi. Et c'est ce que je dirais aux jeunes artistes. Il vaut mieux se contenter d'un petit chez soi qu'un grand chez les autres.
Voilà. Mais tu donnerais quoi comme conseil pour quelqu'un qui veut quand même réussir sans finir comme une pute avec plein de choses dans le cul, comme tu disais tout à l'heure?
Ben, peut-être, je sais pas. Ou alors, vas-y avec des choses dans le cul, déjà. Non, mais je sais pas. Si tu veux, de toute façon, collaborer avec ces grands groupes, ces grands trucs, tu peux pas gagner. Tu peux pas jouer. En fait, regardez la nature. Moi, j'habite dans la nature. La nature, elle exprime cette liberté. Je veux dire, tu le vois dans un bourgeon au printemps, là, on y est. Tu le vois partout. Il faut sortir de l'industrie. Il faut revenir à quelque chose de plus naturel, de plus artisanal. Et je pense que, voilà, moi, dans mon parcours, mais j'en vois plein d'autres, hein, Molière, je veux dire, il a été chassé aussi, à un moment donné. Il était avec sa roulotte. Moi, j'ai un bus. Bon, ça a changé un peu. Mais, on est sur la distance. T'es quand même mieux. Parce que dedans, je les vois, ils sont, ils ont tous des problèmes de drogue, des problèmes de tension, de, enfin, ils vont pas bien. Ils ont de l'argent, ils ont des belles bagnoles, ils payent pas au resto. Mais il vaut mieux payer son resto. Vaut mieux faire ça. Puis ça va bien se passer parce que le public va venir. Alors que là, le public ne vient même plus. Enfin. On est loin du temps des tontons flingueurs ou des toi ou des vrais mecs tu sentais même Depardieu il a connu cette époque où les gens se marraient ils s'amusaient ils s'amusent plus et donc ils nous amusent plus et dans les petits cabarets les petits cafés théâtres il y a encore des gens qui s'amusent c'est eux qu'il faut aller voir c'est parce qu'ils ont la flamme
Ah, tu fais encore un spectacle.
Oui, alors mais le fil d'Ariane,
c'est combien? C'est le 17e, 18e spectacle. Plus?
Mais j'ai le record absolu.
T'as combien de spectacles?
Moi, j'en ai compté 23.
Ouais, 25 maintenant.
Je crois qu'il en manque, ouais.
Donc, 25, 26.
Ah, mais alors, tu refais des spectacles. T'es pas devenu peintre à temps plein.
Si, alors, je fais encore. J'ai mon bus. Donc, et puis, je suis invité chez des gens. Je fais des spectacles. Il faut aller sur mon site Dieudosphère. Il y a toutes les dates.
Je le mettrai en commentaire pour les gens qui n'aiment pas Dieudo, parce que Dieu sait qu'il y en a quand même. Parce que, évidemment, je mettrai le lien pour aller voir l'œuvre de Dieudonné pour que les gens puissent se faire leur avis tout seul.
Même ceux qui m'aiment vraiment, venez voir, je suis pire que ce que vous imaginez. Donc,
Coupez.
Mais en tout cas, oui, le fil d'Ariane, c'est suite au mail d'Ariane de Rothschild. J'ai fait un spectacle, le fil d'Ariane. Ça me paraissait, l'idée était jolie. Et puis je tire le fil d'Ariane et j'arrive à certaines conclusions. Conclusions humoristiques.
Qu'on a évoquées un peu.
Un petit peu, on a survolé.
D'accord. Donc ok. Donc on peut acheter de l'art administratif avec Dieudonné et aller voir le prochain spectacle. On sait pas où, dans un bus, on va voir. Faut aller voir sur ton site.
Là où je serai autorisé.
Voilà où tu seras autorisé.
Là où Ariane de Rothschild n'a pas d'emprise.
Donc au
Bénin ou au Cameroun.
Non. Donc écoute Dieudonné malgré tout merci de t'être déplacé
même si merci à vous
C'est quand même à votre demande mais merci c'est quand même un honneur de te recevoir même si c'est la loi. C'est quand même très controversé de t'avoir, mais c'est quand même très intéressant. Donc, merci d'avoir fait l'effort et le déplacement. Elias, t'as un mot à dire?
Merci pour ton temps. Franchement, tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère que vous allez pouvoir faire votre avis. Nous, en tout cas, c'était intéressant même à travailler le sujet, quoi, parce que c'est vachement vaste. T'as plus de 30 ans de carrière. Il y a beaucoup de thèmes à aborder. Et faut pas résumer tout ça à, genre, 2-3 mots qui sont utilisés contre toi. J'espère que vous allez pouvoir vous faire votre avis, quoi.
Je pense qu'il faut faire confiance au public. Moi, je t'avoue, tu m'as mis face à mon manque de connaissances sur pas mal de choses.
Exactement.
Donc je suis pas à même de te répondre. Donc je dirais au public qui regarde la vidéo ou qui écoute, parce que c'est sur les plateformes, de se faire leur propre avis. Merci en tout cas d'avoir parlé franchement comme à ton habitude. C'est ce que t'as fait toute ta carrière. Ça t'a valu plein de choses bien, plein de choses un peu moins bien. Merci encore Dieudonné d'être passé sur le podcast de Franjo.
C'était peut-être le dernier podcast, du coup. C'était un plaisir.
On va terminer sur aimons-nous les uns les autres.
Voilà. Aimons-nous les uns les autres. Voilà. Merci de donner.
Merci. Plaisir. Salut tout le monde.